Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdua pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 ou sur le 101.7 à Luc Andiwa. L'émission est aussi mise en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Émilie Moncillon. Bonjour.
Bonjour.
Émilie, tu es vice-présidente donc Ardèche Dromoise de la Libre Pensée.
C'est ça, c'est la fédération Ardèche Drôme historiquement de la Fédération nationale de la Libre Pensée.
Et tu es ici pour nous annoncer ce rassemblement prévu ce samedi 10 décembre à 15h sur la place de la Liberté à Cray. Il s'agit d'un rassemblement devant la statue de l'insurgé qui symbolise en quelque sorte le coup d'État de 1851 opéré par Louis-Napoléon
Bonaparte.
Bonaparte.
Alors c'est plutôt la réponse au coup d'État. Si on fait un petit historique, c'est là où tu veux en venir, j'imagine. On sait qu'en 1848, il y a les élections, il y a des élections et il y a Louis-Napoléon Bonaparte qui apporte un petit peu, d'espoir, quoi. C'est-à-dire qu'il jure qu'il sera vraiment le représentant de son mandat s'il est élu et qu'il laissera la place si nécessaire. Enfin voilà, il a l'air, il fait des belles promesses.
D'ailleurs, c'était le premier élu au suffrage universel. C'était la première représentation élue par un peuple.
Voilà, bah écoute, et du coup, il est plutôt bien élu parce que bah, je crois que voilà, il dit qu'il restera fidèle au devoir que lui imposent les suffrages, la volonté de l'Assemblée. Voilà, donc écoute, il est élu comme un sauveur un peu, quoi.
Et donc, c'était parti pour 4 ans.
C'était parti pour 4 ans, mais bien avant ça, rapidement, on a des petits soucis. On voit bien que Louis-Napoléon Bonaparte, c'est quand même avant tout, c'est pas pour faire des parallèles douteux, mais le président des riches, hein, c'est le président des notables, des propriétaires fonciers, des patrons de manufactures, et puis c'est le copain de l'Église. Donc voilà, dans la Drôme, on a le Ferlet, un type qui s'appelle Ferlet, qui est nommé préfet de la Drôme et qui, à peine nommé, se dépêche d'assurer à Monseigneur l'évêque ses bons sentiments en faveur de l'ordre, de la religion, de renforcer l'appareil de répression et de surveillance. Voilà, le mec, il est à fond sur les sociétés secrètes qui pourraient mettre en péril l'ordre.
Et comment se représentait ce pouvoir à cette époque-là? Comment était-il ressenti sur le territoire ardéchois et drômois?
Alors écoute, à part avec des témoignages, comme je viens de le dire, c'est-à-dire que ça, c'est assez mal vu. On est dans la République, beaucoup de gens qui sont déclarés comme pratiquants, les gens ont envie de s'émanciper du pouvoir de l'Église, donc c'est la République, donc on n'a pas très envie comme ça d'un préfet qui se dépêche d'aller manifester son soutien à l'Église. Et dans la Drôme, rapidement, voilà, les clubs sont interdits, on fait la chasse aux rouges, en fait, aux communistes. Et dans la Drôme, pour parler que de la Drôme, bon, cela dit, tu m'as demandé le sentiment des gens, mais moi, j'étais pas née en 1848. Mais dans la Drôme, les résultats de la Drôme, ils sont assez différents des résultats nationaux. Donc, on a des députés montagnards qui sont élus. Voilà, on voit qu'il y a un écart, quoi, et que dans la campagne qu'est la Drôme à l'époque, l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte, elle n'est pas forcément vécue comme une très bonne nouvelle. Voilà. Un peu plus tard, il y a le coup d'État. donc décembre 51, Louis-Napoléon Bonaparte, il est président de la République, mais il va lancer les opérations qui vont lui permettre de s'imposer en tant qu'empereur. Et donc, à peine quelques jours plus tard, dans la Drôme, les paysans, les ouvriers prennent les fourches, les pelles et commencent à défiler. Et ça commence comme ça, l'insurrection drômoise.
Sur l'ensemble de la France, je dis qu'il y a 27 000 personnes environ qui ont été arrêtées suite à ce coup d'État.
Oui, écoute, je ne sais pas exactement, tu me dis 27 000, je te crois. Je sais qu'il y a l'insurrection de Lyon qui est matée assez vite. Enfin, voilà, ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère et ils répriment très fortement, comme ils ont pu le faire plus tard. Pendant les communes, par exemple, la commune de Paris ou les autres qui sont passés à Lyon ou à Perpignan, où ils n'ont pas hésité à tirer dans le tas. Voilà.
Est-ce que tu pourrais me dire en quoi fut heurtée justement la population de la Drôme suite à ce coup d'État ? Qu'est-ce que ça, quel a été pour eux l'impact de ce coup d'État ?
Bah, écoute, je peux pas vraiment, enfin, parler des sentiments de gens qui sont morts il y a 150 ans, c'est pas facile, 170.
Non, mais historiquement, est-ce qu'il y a des textes ou des...
Mais je crois que cette insurrection, elle est quand même le signe de quelque chose qui est mal vécu. Enfin, les gens se sentent trahis. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est élu en disant « je serai fidèle au suffrage, à l'Assemblée, au Parlement ». Et puis qui fait un coup d'État et devient empereur. Enfin, je pense que voilà, les gens vont pas hyper fort en plus là. Enfin, c'est pas non plus c'est pas l'abondance quoi. Donc ils se sentent trahis et ils prennent les armes parce que c'est leur devoir à ce moment-là. En fait, c'est-à-dire qu'ils ont plus le pouvoir puisqu'on leur a confisqué. Donc ils essayent de le reprendre en fait. Du coup, l'insurrection, on est en 1851, elle est fortement réprimée et Napoléon devient empereur et le Second Empire dure 20 ans jusqu'en 1871 où il perd la guerre contre la Prusse. Il est fait prisonnier à Sedan, dans le Nord-Est. Et c'est seulement 20 ans plus tard. On voit que l'Empire cesse d'exister. Bon, pas pour quelque chose de beaucoup mieux, mais enfin, en tout cas, il cesse d'exister. Donc voilà, les gens se révoltent tout de suite, mais vivent pendant 20 ans sous le poids très très lourd du second Empire. Voilà.
Et alors, donc, ce 10 décembre, à 15h, il y aura ce rassemblement devant la statue de l'insurgé. On peut peut-être présenter ce monument à l'origine, avec des origines diversifiées en date.
Donc le 10 décembre, on se rassemble. Ça fait déjà très longtemps qu'on se rassemble. Cette statue, elle est érigée en 1910 parce que pour faire honneur à l'insurrection des Drômois, c'est une souscription, c'est bien ça. Et puis sous Vichy, dans les années 40, elle est fondue pour. Ils disent que c'est pour le métal, mais enfin le symbole est pas très apprécié non plus. Et puis dans les années 90, fin 80, début 90, il y a des gens qui se sont mis en tête de l'ériger à nouveau parce que y en avait des traces, des photos, voilà, des dessins. Et donc à nouveau souscription. Et puis avec le maire de l'époque de Crec et Monsieur Tabardel, voilà, en 91, la nouvelle statue identique à celle qui avait été érigée à la base se retrouve à sa place.
Tu connais un petit peu cette nouvelle version de cette statue et donc a été créée, modelée et puis fondue.
Non, alors écoute, techniquement, artistiquement, j'ai pas d'informations particulières, si ce n'est qu'elle est identique à celle qui était là au début. Voilà.
Et ça, c'était à la base des dessins existants qui permettaient de la reproduire.
Oui, en 91, on a des photos même. C'est pas mal.
En 91.
Oui, ouais, en 91.
Et donc, comment se passera ce rassemblement ? Ça se situe sur un rond-point, hein, je crois.
C'est sur un rond-point. Alors, c'est pas un gros rond-point de sortie de ville. Hein, c'est un petit rond-point près de l'établissement Saint-Louis et du pont Frédéric Mistral, ça ne s'invente pas. Donc c'est un rond-point de centre-ville, donc voilà, il ne faut pas avoir peur de la circulation, hein, on peut traverser. Je ne peux pas te dire s'il y aura du monde, parce que c'est très variable. Moi, ça fait presque 10 ans que je participe à ce rassemblement avec la Libre Pensée. On a été 8, on a été 50. Alors voilà, l'année dernière, c'était les élections. Alors on avait beaucoup de monde. On invite hein, tous les ans les associations et les organisations, on va dire, copines, celles qu'on retrouve régulièrement dans nos rassemblements, à venir avec nous, à prendre la parole autour de ce symbole et de sa portée. Donc voilà, l'année dernière, il y avait beaucoup de monde. Il y avait la CNT, la Fédération anarchiste, la France insoumise, la CGT, la Libre Pensée. Enfin voilà, j'en oublie sans doute. Et puis des gens qui étaient venus sans organisation spécifique, mais qui voulaient écouter ce que les gens avaient à dire.
On peut peut-être aussi parler de la Libre Pensée, tout simplement, son origine et aussi ses engagements.
Oui. Alors, ça, il va falloir résumer un petit peu la Libre Pensée. Mais en tout cas, voilà, la Libre Pensée, elle est depuis le début sur cet événement de début décembre. Ça fait très longtemps qu'on organise le rassemblement à cet insurgé. Des fois, on est un peu tout seul. Des fois, on est accompagné. Voilà, ce sera la surprise. La Libre Pensée, donc, je disais au début, c'est une association nationale et une association internationale, la ILP. Et pour s'organiser, on est organisé en fédération départementale. Donc là, c'est un appel départemental, Ardèche-Drôme. Historiquement, c'est comme ça. On n'a pas une fédération par département. On est ensemble, les deux départements. On a des activités assez diverses selon nos départements, justement, mais on a des fondements, comment dire, on a une déclaration de principe qu'on peut trouver sur notre site internet, et on a surtout voilà des choses un petit peu les principes. Hein, on va résumer. Bon, je pourrais faire aussi un historique sur les figures de la Libre Pensée. C'est facile. Hein, voilà, dans l'Antiquité, dans la Renaissance, jusqu'à la Révolution française. Enfin voilà, la Libre Pensée, historiquement, elle a été construite et puis elle a un visage différent un petit peu en fonction des époques. Hein, c'est à remettre toujours dans le contexte. Mais c'est avant tout une méthode, c'est pas une doctrine. C'est l'idée de pouvoir effectuer un libre examen des faits, des situations. Voilà, c'est-à-dire la preuve avant le concept. La vérité avant la croyance, c'est ça, antidogmatique, évidemment.
Républicaine.
Oui, ça dépend. Républicaine, c'est pas absolu non plus, parce que la République, c'est la cinquième qu'on a maintenant. C'est la première après la Révolution, c'est la troisième, abominable. Alors, tu vois, non. Parmi les libres penseurs, en plus, il y a beaucoup d'anarchistes. Donc, je pense pas dire qu'elle soit républicaine. Cela dit, elle n'est pas anti-républicaine non plus. Voilà. Par contre, elle est humaniste, ça c'est certain. Internationaliste, ça c'est encore certain. Elle est anticléricale parce que on pense que la religion fait de l'ingérence dans la vie des gens. Et ne permet pas la liberté de conscience.
D'ailleurs, on peut parler de l'aspect religion qui revient en force. On peut citer l'exemple des États-Unis avec ces contraintes contre l'avortement. D'ailleurs, il y a une certaine crainte au niveau de la France également sur cet aspect-là.
Alors, écoute, moi, je ne vais pas me lancer dans des choses... mais comment dire, la libre pensée, elle est sur deux choses vraiment très importante. C'est-à-dire qu'à la fois, elle est anticléricale parce qu'elle a un avis. C'est-à-dire qu'elle pense que les religions n'ont pas des principes concordants avec l'épanouissement. Par contre, elle se battra toujours pour la liberté de conscience et pour la liberté de chacun de croire ou de ne pas croire à ce qu'il souhaite. À la liberté de culte également, à la liberté de se vêtir comme les gens l'entendent, à la liberté voilà, d'avoir ses rituels, ses traditions, toute proportion gardée bien évidemment. Donc c'est pour ça qu'elle est anticléricale, mais elle ne tombe pas dans les travers assez classiques de certains mouvements soi-disant laïcs qu'on voit aujourd'hui, qui se concentrent surtout à traquer les musulmans et à revendiquer les racines chrétiennes de la France. La libre-pensée, elle est très attachée à la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État, et elle recite régulièrement les articles 1 et 2 de cette loi, qui sont « l'État ne salarie, ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte ». Tout ça appartient au domaine privé. Par contre, effectivement, on doit garantir à chaque citoyen de pouvoir pratiquer le culte qu'il souhaite, s'il le souhaite. Et en effet, comme aux États-Unis, on n'est pas à l'abri, c'est pas qu'on n'est pas à l'abri d'ailleurs, c'est qu'on est, on est victime d'un retour, en effet, du religieux dans certains aspects de nos vies. Je pense, pour ma part, qu'il n'a jamais vraiment disparu. Il est toujours là. Enfin, le lobby, en l'occurrence, en France, c'est plus chrétien qu'autre chose. Mais ils interviennent et ils influent sur beaucoup de décisions politiques encore aujourd'hui.
Une petite parenthèse, il y avait Télé 7 jours qui a amené sa notification de... C'était le comité catholique de visionnage qui permettait de stipuler pour quelle catégorie d'âge était destiné le programme d'une soirée. Est-ce que ça existe toujours, ça?
Je sais pas. Télé 7 jours, a priori, c'est un truc privé. Donc s'ils ont envie de demander à un comité catholique leur avis sur l'âge pour visionner les choses, écoute, ça regarde les gens d'acheter Télé 7 jours ou pas. Voilà, là où la libre pensée elle est moins sereine, voilà, c'est pas sur Télé 7 jours. Mais si tu veux que je reprenne un peu, je disais anticléricale, je disais anti-religieuse, mais pas anti comment dire, pas anti-croyant.
Anti-pratique.
Ouais,
pas contre une pratique non plus.
Ben si tu veux, mais sauf qu'elle s'attaquera jamais à quelqu'un parce qu'il décide de pratiquer. On va être dans la philosophie, on va se permettre ce que les gens appellent du blasphème sans aucun problème. Par contre, voilà, toujours reconnaître à tout le monde sa liberté de conscience. Elle est antimilitariste, évidemment. En ce moment, elle est très inquiète d'une militarisation de la société. Voilà, les exercices militaires géants en Ardèche, Emmanuel Macron à Toulon qui explique en long, en large, en travers comment on est en guerre et comment il va falloir se défendre. Le service national universel généralisé à l'ensemble d'une classe d'âge. Donc voilà, ça c'est des choses qui inquiètent la libre pensée. Et elle est anticapitaliste. Alors là, pour quelle raison ? Parce que le capitalisme est vécu et aussi, comment dire, rebattu comme un dogme, comme étant la seule possibilité, le seul système existant et quelque chose qu'on devrait subir. Elle est aussi anticapitaliste parce qu'elle refuse l'exploitation économique, qui est une oppression et qui vise à assujettir les individus au détriment de leurs droits. Donc, voilà.
Comment peut-on parler des actions qu'opère la libre pensée en France ? Est-ce qu'elle organise des colloques, des rencontres, d'aller au public ?
Oui, elle organise plein de choses. La libre pensée, elle fait des conférences, des rencontres, des réunions, des débats, des colloques. Elle publie des livres. Elle publie un mensuel qui s'appelle La Raison. Elle publie une revue trimestrielle qui s'appelle L'Idée Libre. La plupart des fédérations départementales ont un bulletin local. Pour la Drôme Ardèche, ça s'appelle le Mécréant Ardéchaudremois. Voilà, donc on a vraiment une activité qui est foisonnante avec des communiqués en lien avec l'actualité qui sont publiés très très régulièrement, des liens à l'étranger avec toutes les associations qui ont les mêmes statuts que nous à travers le monde. Voilà, on a vraiment beaucoup d'activités.
Et puis il y a aussi ces émissions culturelles dominicales sur France Culture, où la libre pensée intervient parfois. D'ailleurs, je t'y ai entendu aussi.
Oui, alors c'est divers aspects de la pensée contemporaine. C'est un dimanche par mois sur France Culture vers 9h. Donc c'est en effet l'inverse d'une émission culturelle et c'est intéressant, c'est très varié. En fait, dans la libre pensée, c'est jamais écrit tel quel, hein, je pense. Mais c'est une éducation, c'est une association, pardon, d'éducation populaire en quelque sorte. C'est-à-dire que on pense que l'épanouissement des gens, en fait, passe par la connaissance, le savoir. C'est une héritière des Lumières. Donc, voilà, cette émission, elle est très intéressante. Et en effet, tu m'y as entendu peut-être, si tu m'as écouté, parce que je parlais du Service National Universel. Voilà.
Tu parlais des inquiétudes de la libre pensée sur la militarisation de la société, et puis de ce retour de la religion, enfin ce retour, cette mise en lumière de la religion de nouveau sur le pays. Qu'est-ce qui est pressenti justement pour la suite de ces craintes, selon vous ?
Alors, bon, nous, on évite les prédictions, on n'est pas vraiment des Madame Soleil, on préfère parler de ce qui se passe pour de vrai. Et ce qui se passe pour de vrai vis-à-vis de la militarisation de la société, c'est assez facile, hein. Je le disais, on a un président qui est un vrai va-t-en-guerre, en fait, qui a augmenté le budget de l'armée d'une façon vraiment énorme, qui prépare des exercices militaires à taille réelle un peu partout dans le pays. Il y a un article du Monde d'ailleurs qui en parle parce que récemment c'était en Ardèche, mais c'est pas prévu qu'en Ardèche. Et dans son intervention à Toulon il y a quelques semaines, il est très clair sur le fait qu'il va falloir se préparer à quelque chose voilà, de guerrier, un choc qu'il va falloir apprendre à résister. Ce qui est assez amusant, c'est que c'est la même personne qui prépare ces conflits, qui essaye de nous faire croire que c'est un peu quelque chose d'inexorable sur lequel on n'aurait pas le choix. Il essaye de préparer la jeunesse en détruisant littéralement l'école et en essayant de mettre nos enfants dans une sorte de service militaire où on apprendrait à obéir plutôt qu'à réfléchir. Oui, nous, il ne s'agit pas de prédictions sur l'avenir. On commande ce qui se passe et ce qui se passe est déjà assez inquiétant comme ça. En fait, il n'y a pas besoin de faire des oracles à ce sujet, je pense.
Justement, cette information, cet aspect, cette vision, est-ce qu'on la retrouve médiatiquement sur les médias français ou alors est-ce qu'il y a un rideau sur cet aspect-là encore posé ?
Écoute, comme sur plein de sujets, à mon avis, on a une information qui est extrêmement tronquée et très partiale. Donc, on a assez peu de réelles informations. On a une petite promotion à travers beaucoup de médias, des activités du gouvernement notamment, autour de ce service national universel. On a de la promotion, on a des articles dans le Dauphiné toutes les semaines où on nous dit que tels enfants de telle école ont été visiter telle caserne, qu'ils ont pu monter dans les chars et puis qu'ils ont pu même toucher les armes. Et puis on est ébahis, là, on est vraiment... on s'émerveille, vous voyez, de la découverte des enfants, de la violence et des armes. Donc voilà, on a tout un petit ronron comme ça. Dans les médias locaux, dans les médias nationaux, où à aucun moment on donne la parole aux pacifistes, aux antimilitaristes. Voilà, il n'y a pas si longtemps, en France, il y a des gens qui disaient « plus jamais ça », ils avaient encore un souvenir un petit peu frais et affreux de la guerre, de la dernière guerre qu'ils ont vécue sur le territoire. Il y a encore les gens traumatisés... De la guerre en Algérie, ensuite de la guerre qui était à nos portes en Serbie. Enfin, voilà, il n'y a pas encore si longtemps que ça, on laissait la parole et il était, communément inattaquable d'être pacifiste. Aujourd'hui, on essaye de nous faire croire que c'est inexorable, que la guerre aura lieu, que le monde est ainsi fait et qu'il faut mieux s'y préparer plutôt que d'être, d'être en résistance face à ça. Et ça, c'est quelque chose avec laquelle, en effet, la libre pensée n'est pas d'accord.
Et puis, un constat, celui de la dégradation du service public, de l'éducation, depuis cette création des républiques, avec ce faire valoir du savoir pour tous par l'école. Justement, l'école est mise à mal de nos jours, comme beaucoup d'autres services. Est-ce qu'il y a une volonté, à vos yeux, de détruire ce qui a été constitué depuis plus de deux siècles?
Oui, alors c'est pas détruire pour détruire, hein, c'est dans des intérêts économiques, c'est-à-dire que en privatisant tout, on rend tout possiblement source de profit, de dividendes pour des actionnaires. Donc voilà, l'argent fabriquant l'argent. Je pense qu'il s'agit seulement de ça dans le domaine de l'éducation, mais aussi dans le domaine de la santé. Dans plein d'autres domaines qui sont déjà privatisés, hein, l'énergie, les transports, enfin voilà, on a un petit peu tout comme ça qui se transforme sur le même schéma un petit peu. Effectivement, le souci là n'est pas d'offrir un service public, d'éduquer, de permettre l'émancipation de chacun. Non, on est, enfin voilà, là le but, je pense que le but du gouvernement, il a pas du tout ça dans le viseur. Il s'agit plutôt de continuer les super profits, en fait, simplement, je pense.
Une vision à court terme, donc, contrairement à cet échafaudage qui s'est constitué pendant des décennies pour peut-être améliorer l'humanité.
Oui, alors c'est un échafaudage, comment dire? C'est-à-dire que ça s'est jamais fait dans la facilité non plus. Hein. Pendant que certains échafaudaient, d'autres sciaient des poteaux de base. Il y a toujours eu une résistance de la bourgeoisie, de la noblesse à l'époque, pour l'émancipation des classes laborieuses, leur éducation. Voilà, ça n'a jamais été très bien vécu. Hein. Il y a toujours voilà, la lutte des classes, elle est à l'ordre du jour et elle a toujours été comme ça le moteur. De gens qui construisent, d'autres qui détricotent et ainsi de suite. Donc on ne peut pas dire qu'il y a eu un échafaudage de montée qui est parvenu à son paroxysme et puis qui là serait en train d'être petit à petit démonté. Il y a eu des gens qui, contre vents et marées, ont monté des choses. La sécurité sociale, une instruction nationale, un système de santé, une sécurité sociale, toutes ces choses-là ont été... arraché aux classes des possédants et des dominants.
Merci en tout cas, Émilie, pour nous parler donc de ce rassemblement devant la statue de l'insurgé à Cré, place de la Liberté. Et ça sera le samedi 10 décembre à 15h. Eh bien, on peut citer aussi ce site internet de la Libre Pensée, tout simplement.
Oui, alors si vous tapez sur internet Fédération nationale de la Libre Pensée, normalement vous tombez dessus, FNLP, je sais plus, www.fnlp.fr, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement. Mais voilà, on aurait pu faire encore une tartine, hein, des heures. Je pense que la Libre Pensée, ça pourrait faire une émission par mois pendant 10 ans, parce que il s'agit de parler de tout. Mais voilà, ce jour-là, le 10 décembre, on pourra parler de l'insurrection, on pourra parler des vertus de l'insurrection, pourquoi les gens se rassemblent, pourquoi ils se révoltent, qu'est-ce qu'on a à construire ensemble, et puis les bienfaits de l'organisation, pourquoi pas aussi.
D'ailleurs, comment se constitue ce mouvement de la libre pensée au niveau national, départemental? Et il y a des lieux ou des personnes à rencontrer? Comment ça s'opère?
Sur le site internet, il y a le portail des fédérations. Normalement, il y a les coordonnées de au moins quelqu'un du bureau de chaque fédération départementale. Donc si vous écoutez cette émission et que vous êtes, je ne sais pas moi, dans l'Isère, dans le 91, dans le 35, il n'y a pas tout à fait une fédération par département, mais ça couvre quand même vraiment beaucoup, beaucoup de départements. Donc vous pouvez toujours trouver et puis... En surveillant ce genre d'événements, voilà, les événements autour des monuments pacifistes. Il y a tout un travail de la libre pensée là-dessus, sur les monuments qui ne font pas honneur aux morts pour la France, mais aux morts par la France, par exemple. Voilà, généralement, il y a libre-pensée pas loin.
Pour conclure, un morceau de musique qui viendrait à l'esprit pour clore un peu celle-ci.
Eh ben, on peut écouter « Ni Dieu ni Maître » de La Canaille. C'est parfait, c'est nous.
Émilie, bonne soirée.
Merci beaucoup Yves et merci à Erdiwa et à samedi à Cray.
Au revoir.
À quoi ça sert vraiment d'avoir la foi éperdument? J'en perds mes mots, serre les dents quand je pense comme c'est percutant. On perd du temps, espère du vent, on se positionne à tort alors que la vérité crève l'écran. Mais dig dong, à la question d'où vient-on, je réponds Big Bang. Évolution, tous des frères de King Kong. Quiconque prétendrait le contraire serait fou. Tous des mammifères, mon frère dopé de raison, c'est tout. Ni Dieu ni Maître, ni Dieu ni Maître, ni Dieu ni Maître. On veut ni Dieu ni Maître, ni Dieu ni Maître, ni Dieu ni Maître. Dehors t'inquiète c'est calculé, je vois pas en quoi prier l'Immaculé pourrait apporter à part nous faire reculer, nous basculer dans je ne sais quoi, se mettre à fabuler, ne plus miser sur soi mais croire en Dieu et l'aduler. Les derniers seront les premiers, c'est comme ça qu'ils nous font danser. Quand vous serez mort, je vous jure, vous serez récompensé. Mais Dieu, qu'est-ce qu'on en sait? Rien qui peut compenser le fait qu'il faut toujours croire sans voir et s'en contenter. Donc, en condensé, restons sensés. Pas question d'encenser l'insensé.
Non, non.
En condensé, restons sensés. Il n'est pas question d'encenser l'insensé. Ni Dieu ni Maître. Ni Dieu ni Maître. Ni Dieu ni Maître. On veut ni Dieu ni Maître. Éveillés devant l'affaire templier, mais c'est par milliers que les religions n'ont tué des gens qui avaient confiance en leurs croyances sans s'en méfier. Prêtre, imam, rabbin, gourou, où est la différence? C'est la même influence. Je prône la résistance car mes distances elles me dispensent de tout endoctrinant qui voudrait diriger mon existence. La religion n'est autre que l'œuvre de l'homme, un instrument des riches pour asservir le peuple en somme. La religion n'est autre que l'œuvre de l'homme, un instrument des riches pour asservir le peuple en somme. Ni Dieu ni Maître. Ni Dieu ni Maître, ni Dieu ni Maître, on veut ni Dieu ni Maître, ni Dieu ni Maître, ni Dieu ni Maître. Les dirigeants religieux ressemblent tous à des rois. Facile de prêcher la foi quand on pète dans la soie. Nous, c'est les dettes en fin de mois, la diète en fin de droit. Et ils se permettent de juger nos actes, mais enfin quoi? Qui ils sont d'abord ces vieux cons, dit leur d'opinion, pour nous faire la leçon, dire ce qui est bon du haut de leurs millions. Une puissance politique qui sait placer ses pions, pour viser prolifique, leur dire je m'entorche le fion, qui s'aille tous se permettre, ni Dieu ni Maître, mon père né au berceau, je veux plus de barreau à ma fenêtre, j'ai dit qu'ils aillent tous se permettre, ni Dieu ni Maître, mon père né au berceau, je veux plus de barreau à ma fenêtre, ni Dieu ni Maître.